Ben, j'étais dans la rue parce que j'ai appelé les femmes Basseville, Oldville, puis ils m'ont refusé. Fait qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de place pour les personnes trans. J'ai trouvé ça un peu plate. Tu sais, coucher dans la rue, j'ai jamais couché dans la rue dans ma vie, là. Fait que j'avais une crainte.
À 15 jours de sa sortie de prison, sans ressources ni hébergement adapté, Abigail Saint-Pierre, une femme trans, a cru qu'elle allait se retrouver sans domicile. Une situation que vivent plusieurs ex-détenus, alors que la fin d'un parcours carcéral est considérée par plusieurs chercheurs comme un point de bascule vers l'itinérance. C'est face à cette difficulté de se loger, pour ceux qui sortent de prison, que la société John Howard offre depuis 4 ans de l'hébergement mixte, explique la directrice générale au Québec, Samira Figuigui.
Parce que avec la crise du logement qu'on connaît à Québec et au Québec, donc ces personnes-là ont encore plus de difficultés à cause de leur passé pénal, mais aussi de leur code de crédit qui les empêche d'accéder à un logement. Ils iraient à la rue, ils y trouveraient une maison de chambre, ils trouveraient un appartement insalubre et ils recommenceraient leur schéma soit dans l'itinérance, soit dans la criminalité. C'est pas un nouvel hébergement en plus qu'on crée, on répond à un besoin criant à Québec et au Québec.
La société John Howard compte pour le moment 2 espaces dans le Vieux-Québec. 7 lits à la maison Mère Mallet sont réservés à des personnes à risque de récidive qui bénéficient d'un accompagnement plus important. En face de la maison Mère Mallet, 8 chambres accueillent des personnes plus autonomes.
On les accompagne pour toutes leurs démarches d'hébergement, de logement, des soins de santé, à l'école, tout ce qui fait que la personne puisse se réinsérer dans la communauté.
Un troisième hébergement verra le jour en 2026 dans Saint-Sauveur, un projet qui suscite des inquiétudes dans le voisinage, comme le Centre des femmes de la Basseville, qui accueille des victimes d'actes violents et qui craint que plusieurs femmes ne se sentent plus en sécurité. La directrice, Samira Figuigui, souligne que les résidents de la société John Howard doivent répondre à plusieurs critères, comme un contrôle de leur consommation, ne pas minimiser les faits qui les ont menés en prison, et une preuve d'autonomie, comme un travail. Par ailleurs, dans Saint-Sauveur, les résidents qui ont commis des crimes sexuels envers des mineurs seront refusés.
Le risque existe, mais le risque est minime. Donc si on choisit de même ici à la maison Mère Mallet, si on choisit d'accepter des personnes selon différents profils, différents critères bien spécifiques, c'est que on sait que elles vont bien s'adapter dans l'environnement, parce que là aussi il y a des femmes, il y a des communautés qui sont aussi vulnérables. Donc ça va être la même chose, et j'ai envie de dire encore plus à Saint-Sauveur, parce que elles sont vraiment à la fin de leur parcours, et après nous c'est leur appartement. Donc, on ne veut pas les mettre dans une situation d'échec. Donc, si elles sont dans une situation d'échec, si on a un doute ou si on sait que la personne n'est pas encore prête, ben, soit on va la référer vers un autre organisme, soit on va la référer dans un autre hébergement.
Le Centre des femmes n'a pas répondu à notre demande d'entrevue au moment de diffuser ce reportage. La société John Howard indique poursuivre les discussions avec le centre et le voisinage. Selon la directrice Samira Figuigui, le terrain de Saint-Sauveur n'a pas été choisi par défaut ou par manque de moyens financiers.
On a des volontaires, parce que nos résidents, on les appelle les volontaires, donc on a eu des volontaires qui résident à Saint-Sauveur notamment, et ça se passe bien. Et c'était par rapport à la proximité aussi des autres ressources et aussi de la communauté. Donc on s'est dit que ça allait être un bel endroit aussi pour réaliser ce projet.
Contrairement aux maisons de transition, la société John Howard mise sur la réduction des méfaits et l'autonomie pour encourager un retour en société. Émile, qui utilise un prénom d'emprunt pour protéger son identité, dit avoir retrouvé un second souffle grâce à ses hébergements.
Je m'identifie même pas comme criminel, parce qu'un criminel, dans ma tête, c'est quelqu'un qui est fier de ce qu'il fait, puis il va faire ça toute sa vie. Moi, j'ai juste fait des erreurs. Une fois que tu passes à travers toutes ces étapes-là, que tu dis « enfin, c'est fini », puis que tu retournes chez vous, puis tu te dis, mais là, j'ai même pas chez vous. T'as plus d'appartement, t'as plus rien. Te rebâtir avec le prix de la vie aujourd'hui, repartir de zéro, t'as comme pas le choix d'avoir un organisme comme John Howard. Je veux dire, c'est...
Après un an dans un logement de John Howard, Émile poursuit un diplôme en ébénisterie et prévoit vivre dans son propre appartement l'automne prochain.
Quand ça fait au-dessus de 30 ans qu'on dirait que tu vis de la peine et que t'es pas heureux, là, de l'espoir, il n'y en a plus.
Est-ce que vous le retrouvez, l'espoir, ici?
Alors, j'en ai beaucoup. Ouais. Je pense que l'organisme, je vais lui dire des merci toute ma vie. Hein. J'aurais pas réussi s'il n'aurait pas été là.
En 4 ans, la société John Howard a accueilli 59 personnes dans ses hébergements de Québec. L'organisme ne détient pas de données sur le taux de récidive lorsque ses résidents partent. Mais selon une étude publiée en 2019 et commandée par le gouvernement québécois, les mesures de réinsertion diminuent fortement les récidives, alors que le taux de récidive des personnes non accompagnées à la sortie d'une prison québécoise atteint un peu plus de 50%. Alice Zanetta pour IGL à Québec.